Abraham va maintenant se poursuivre en français.
Bonjour, vous êtes bien sur Radio Prague. Déco, mode, art de vie, Inès de la Fressange évoque tout cela dans son livre sur l'idéal parisien féminin intitulé tout simplement La Parisienne. Le livre vient de sortir en tchèque et Václav Richter vous en parlera dans sa rubrique littéraire. Au menu de cette émission préparée par la rédaction française, également le tchèque du bout de la langue, mais tout de suite place aux arts plastiques. « Je veux m'effacer moi-même », affirme le peintre Miloš Sikora dans une interview accordée à Anna Kubišta. Né en 1945 en Bohême du Sud, Miloš Sikora vit depuis 1989 en France, où il puise son inspiration pour ses peintures. Ses voyages l'ont également mené en Inde, en Irlande. Un prochain voyage en Amazonie donnera peut-être une nouvelle direction à sa création. Exposée jusqu'à la mi-février au centre tchèque de Paris, c'est là qu'Anna Kubišta l'a rencontré.
Culture sans frontières.
Miloš Sikora, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes peintre. Alors, vous avez une exposition à l'heure actuelle au Centre tchèque de Paris. Évidemment, à l'heure où nous diffuserons cette émission, cette exposition sera terminée. Mais ça n'empêche pas d'en parler puisque ça permet de parler de votre travail. Pour commencer, je vais rappeler que vous êtes né alors à Nesmiègne, en Bohême du Sud.
Budějovice, české Budějovice, oui, c'est un village que j'aime beaucoup. Enfin, j'étais né.
En 1945.
En 45, ouais.
Et vous avez grandi là-bas. Est-ce que cette région vous a marqué?
En plus, mon père, il est mort l'année dernière, 94. J'ai hérité une maison là-bas. Donc, je vais souvent. Parce que je connais les gens depuis quand j'étais petit. Et puis, l'année dernière, Nesmiègne avait 600 ans. Puis finalement, à côté de village, il y a un étang qui s'appelle Pustiak. Et puis, le village même, il était là à l'époque. Mais ce sont les Hongrois, enfin les Avars, qui ont complètement détruit le village. Donc, on peut dire que j'ai un set de Sarkozy qui m'avait foncé d'émigrer en France. Voilà.
Plus tard, vous allez faire des études aux arts et métiers à Prague. À Prague. Qu'est-ce qui vous a un peu poussé à l'origine à la peinture? Est-ce que c'était quelque chose de famille?
Non, pas du tout. Mon père était instituteur, ma mère était couturière, donc c'était... Mais finalement, j'ai commencé le dessin noir et blanc, et puis les objets. J'ai détruit complètement la grange de mon grand-père. Et puis je commençais avec les objets, et puis là, j'aimais pas tellement la couleur. Mais sinon, c'est la France, parce qu'il y a la luminosité. Je commençais vraiment à faire la peinture, c'était en 89. Donc,
J'ai lu que vous aviez été proche du milieu surréaliste tchèque. Est-ce que, dans quelle mesure, ce courant vous a apporté quelque chose, et qu'est-ce qui vous a plu dans ce groupe?
Oui, non, c'était à l'époque, c'était avant 1968, parce que c'était quelque chose révolutionnaire. J'avais des copains, les artistes, Prokofoskovets, Standardvolsky, Peter Kral, les poètes. Donc, j'avais admiré. Mais en ce moment, je ne sais pas, bon, Schwankmayer, bon. Mais en ce moment, je crois que c'est un peu, c'est vieillant. Même, par exemple, le film Survivre sa vie, bon, ça commence par Hatia Patia Bébé, mais je crois que c'est ce cliché surréaliste. Bon.
Et à l'époque, c'était plus avant-gardiste?
Oui, oui, c'est ça, voilà.
Et c'est ça qui vous plaisait, alors?
Oui, parce qu'il n'y avait pas de choix à l'époque, donc... Oui, tout a commencé en années 60. Il y avait Mikuláš Medek, Koblasa, vraiment c'était à l'époque, vraiment ça commençait quelque chose.
Comment vous avez vécu 1968?
Je suis réveillé à 4 heures, et puis ma mère m'avait dit, écoute, et l'avion, et puis les Russes sont là, donc je suis allé voir un copain. Et puis, à partir de 5 heures, on a vécu les journées vraiment Même j'étais à côté, à côté des chars, ils ont brûlé le tank au place Venceslas. Ils ne savaient pas où ils sont. Et moi, on a posé la question, ils disent, ah, on est en Allemagne ou je ne sais pas. Et puis à côté de Český rozhlas, la radio tchèque, ouais, ça a bien pété. Vraiment, on avait la trouille. Donc,
sur le moment, vous avez pensé à partir?
Donc c'est le groupe surréaliste qui est parti complètement.
Petr Král, notamment Prokop Boskovec.
Et Prokop, Petr, il a resté. Moi, j'avais un an de retard, donc je suis parti en 69. Donc, j'étais admis presque à Beaux-Arts, à Paris, mais ça a commencé à décréder parce que je crois que c'était en octobre et ils ont fermé complètement les frontières. Donc le type avait dit, écoutez, il faut que vous retourniez. Si vous restez, vous êtes un émigrant, un méchant et tout ça. Donc vous ne pouvez pas avoir une bourse pour faire les études à Beaux-Arts. Donc on était, à l'époque j'avais une amie, donc écoute, il ne pouvait pas venir parce qu'on s'est dit, oh, je vais un peu en avance, tu vas me rejoindre. Mais les frontières étaient fermées, donc c'était en février-mars 70, je suis parti à Prague. Donc,
Vous êtes parti en 70 pour Paris
Pour Prague.
Oui, vous êtes rentré, d'accord.
Oui, je suis rentré, mais définitivement. Quelqu'un m'avait dit, tu as passé à côté de l'histoire, c'était en 89, le printemps.
Alors, vous êtes parti définitivement au printemps 1989.
Même j'étais... les Tchèques, ils ont dit Slagr. Mais finalement, j'étais à Amiens pendant un an. C'était un foyer. C'était de Peltz qui a écrit Boudehouche. Il a écrit Les Lacs, l'horrible histoire et tout ça. Non, c'était à Amiens. Et puis c'était un foyer. J'étais avec les Roumains, Turc, vietnamien, donc c'était, on a pris la langue française et puis c'était agréable finalement.
Pourquoi vous vouliez aller en France?
Même dans les années 60, je ne sais pas qu'est-ce que c'était. On a fumé des gauloises, pastis, et puis à l'époque on a fumé des boyards, c'était le plaisir total. Puis on était un peu... Le premier mot français qu'on a pris avec un copain, c'était le chauffage central, ça me plaisait. On était francophones.
Alors, je disais en introduction que le Centre Tchèque de Paris présente votre exposition. Mmh. Je disais également que cette exposition est terminée au moment où on diffuse cette émission. Est-ce que vous pourriez un petit peu présenter votre travail, en tout cas ce qu'on peut voir ici au Centre Tchèque?
Donc c'est le carnet de voyage de l'Inde, et puis après des phares. Bon, les phares, il y a 6 ans, c'était ça, j'avais un cancer de ganglion. Donc 6 mois, c'était chimereux, donc je commençais à dessiner des phares comme ça, mais finalement je suis rendu compte que c'était SOS. Vous savez, le phare qui clignote. Donc. Et puis après, j'aime ce qui est. Je disais à Gaspard, je vais faire la Tour de France de la côte. Donc, diverses régions, la Bretagne, la Normandie. Donc, je ne connaissais pas Normandie. Et puis après, on a resté 3 semaines à Île d'Ouessant. C'était la merveille. Moi, je me suis dit, c'est Eden sur Terre. Donc, parce que vous avez 4 phares qui clignotent la nuit, les étoiles, la mer, donc les gens magnifiques. Donc.
Est-ce qu'il n'y a pas ce côté des Tchèques qui n'ont pas la mer?
Exactement ça, oui. Voilà.
Il y a peu de ça, oui.
En plus, c'était en 1974, la mer. C'était en Pologne, donc ça n'a rien à voir avec le Baltique, avec la Normandie, la Bretagne, tout ça. Donc. Mais sinon, j'avais envie d'être marin à l'époque, après l'école normale, mais m'avait proposé Odessa ou la Pologne, enfin Gdańsk. Donc, il fallait faire mon baccalauréat, tout ça. Et puis après, finalement, je suis décidé de parler à Odessa, même à Gdańsk. Donc.
Ouais, finalement, vous dessinez la mer.
Là, oui, c'est ça. Voilà.
C'est moins fatigant.
Oui, c'est moins fatigant. Mais ça prend quelque chose parce que les vagues, ça se répète. Bon, ils disent souvent que le peintre répète un tableau, un film, mais je crois pas. Il faut répéter des choses et puis ça vient un peu comme des vagues.
Vous avez aussi une technique assez particulière, c'est que vous lavez en fait vos dessins.
Oui.
Est-ce que vous pourriez un petit peu le décrire?
Oui, c'est un effacement. Donc je crois que je vais effacer moi-même. Donc. Et puis, il y a quelque chose de réel. Et puis après, ça donne l'autre chose. J'efface, surtout en Inde. J'ai dessiné sur le papier de riz, qui est assez solide. J'ai dessiné vraiment la chotaine et tout ça. Et puis après, je l'avais dans une douce. Et puis ça donnait quelque chose d'autre. Donc, j'ai envie de m'étonner qu'est-ce que ça donne. Enfin.
Quand on regarde un peu votre travail justement au Centre Tchèque, en tout cas celui qui est exposé au Centre Tchèque, on a parfois l'impression que c'est comme si vous aviez pris des pochoirs ou alors un peu comme faisaient les hommes préhistoriques. En fait, ça donne un peu cette espèce d'idée d'empreinte en fait sur.
Oui, c'est ça.
C'est quelque chose auquel vous avez pensé en le faisant ou finalement c'est le résultat
non,
qui.
Non, c'est le résultat qui. Il faut que je dessine, puis ça donne quelque chose. Mais le dernier, c'est la technique à la savon. C'est le savon marseillais. Ça tient, ça donne vraiment. C'est jusqu'au. Les gens disent, c'est toi qui fais yogourt. Je disais que ce n'est pas yogourt, c'est bio. Et puis ça, on voit presque rien du tout, mais j'aime ça. C'est un peintre coréen qui va m'inspirer, mais c'est l'Asie qui. Je m'approche vers l'Asie plutôt.
En fait, vous utilisez le savon de Marseille pour laver.
Pour laver, encore laver les dessins qui étaient lavés. Donc, comme arroser.
Vous êtes parvenu à cette technique comment?
Par hasard, parce que j'ai glissé sur le savon de Marseille. Et puis, je fâchais, puis je pensais même laver les dessins, les tableaux. Et puis, du coup, ça donne quelque chose, c'est plus doux. Et puis ça sent bon.
Vous partagez votre vie entre la France et la République tchèque. Est-ce que cette oscillation est difficile ou enrichissante?
Si je vais me fier de Prague, bon, j'ai des amis, on les pille toujours, mais en ce moment j'aime la région, le Bohème du Sud. C'est enrichissant, parce que je sais pas. J'ai trouvé mes racines là-bas. Mais quand même, je suis naturalisé français, et je suis tchèque, quoi.
Vous avez d'autres projets de voyage? Je sais que vous voyagez beaucoup en Irlande, en Inde.
Oui, c'est vrai. Irlande, c'est magnifique. Ah oui, Amazonie. Et j'espère que je vais survivre. Parce que c'est un peu dur. Avec une amie qui était là déjà, son cousin est un gendarme. C'est un gendarme en Guyane. Et puis après, on prend pirogue. Et puis avec le orpère, les gens qui cherchent.
Les orpailleurs,
oui. Les orpailleurs. Et puis on va vers l'Amazonie. Donc j'ai un peu trouille.
Donc c'est pas sûr.
La fille, elle est venue, mais elle était complètement bouffée par le verre et puis piquée partout. Donc j'aime ça, peut-être, je sais pas.
C'était le peintre Miloš Sikora dans Culture sans frontières. Place maintenant au Tchèque du bout de la langue, notre émission bimensuelle préparée par Guillaume Narguet.
Le Tchèque du bout de la langue, Guillaume Narguet.
Salut à tous les tchécophiles de Radio Prague.
Ahoj vám všem milovníkům češtiny Rádia Praha.
Depuis maintenant un peu plus d'une semaine, les chrétiens du monde entier sont entrés dans la période dite du carême, une période de 40 jours qui précède le jour de Pâques et la résurrection du Christ. Cette entrée dans le carême s'est faite lors de la messe des cendres, le mercredi suivant le mardi gras, un jour de pénitence appelé le mercredi des cendres.
Popelečný středa.
L'occasion donc pour nous de nous lancer dans une petite série de deux émissions consacrées au mot.
Popel.
Cendre, un mot de la langue tchèque que l'on retrouve également dans les autres langues slaves, mais dont l'usage n'en reste pas moins parfois très intéressant et même curieux, comme nous allons tout de suite le découvrir à travers le mot poubelle. Je suis devenu poubelleur, je suis le roi des poubelles, de tous les poubelleurs, c'est moi le meilleur, je suis même un poubelleur diplômé. L'extrait de cette chanson, un peu bête, disons plutôt sans prétention, du groupe
Koblišce,
s'intitule
Popelář,
le poubelleur, et vous allez tout de suite comprendre pourquoi nous l'avons choisi. Mais commençons tout d'abord par un rappel. En tchèque comme en français, le mot cendre,
popel,
possède deux significations. Il peut ainsi désigner le résidu restant à la fin de la combustion ou les restes d'un mort. En tchèque, cependant, il existe un nombre relativement important de mots proches ou semblables au terme
popel.
Ainsi, celui que l'on connaît en français comme l'éboueur ou plus familièrement le poubelleur, c'est-à-dire celui qui est chargé de collecter les déchets, de ramasser les poubelles, se dit en tchèque
popelář,
littéralement quelque chose comme le cendreur. Un mot qui, bien entendu, n'existe pas en français. Toutefois, si nous nous sommes amusés à traduire ce mot tchèque
popelář
par cendreur, c'est parce qu'à l'origine, autrefois, en Bohême et dans les pays tchèques, ce mot désignait la personne qui était employée à éliminer, supprimer les cendres, dans ce cas précis, les résidus qui restaient à la fin de la combustion du bois ou du charbon, dont on se servait notamment pour se chauffer. Aujourd'hui, ce mot
popelář
a perdu son sens original, mais continue néanmoins à être employé pour donc désigner un éboueur, un mot qui, notons-le, a lui aussi perdu une partie de son sens original en français, puisque, outre le ramassage des ordures, les éboueurs, comme leur nom l'indique, étaient autrefois également chargés de l'évacuation des boues et de l'entretien des égouts. En tchèque, le mot juste, adapté à l'époque contemporaine et qui répondrait bien à l'idée de collecte des déchets et du ramassage des poubelles, reste à inventer. Mais on peut supposer qu'il s'agirait alors de
odpadář,
un terme dont la racine serait composée du mot
odpad,
soit déchets, résidus, ordures. Ce qu'il est également intéressant de remarquer, c'est qu'en tchèque, les mots poubelle et camion poubelle, soit
popelnice
et
popelářský vůz,
sont eux aussi reliés à l'idée de ramassage, de collecte des cendres, ou plus précisément à la fonction de
popelář,
ce fameux cendreur, fruit de notre imagination qui n'existe pas en français. Ainsi, si l'on s'amusait encore une fois à traduire littéralement ce qu'est un
popelářský vůz
ou une
popelnice,
il s'agirait alors d'un camion à cendres ou d'une poubelle à cendres. Admettons certes que ces traductions sont quelque peu tirées par le cheveu, néanmoins, elles nous aident à mieux comprendre le lien qui existe entre ces différents mots et celui, donc, de cendre.
Popel.
Mais on ne peut pas clore le sujet sans une dernière précision amusante et curieuse à la fois. En effet, si le mot
popelnice
désigne bien une poubelle qui servait donc à l'origine à recevoir les cendres, il ne désigne toutefois que la grande poubelle, c'est-à-dire celle que l'on dépose généralement sur le trottoir pour que les éboueurs puissent la ramasser avec leur véhicule spécial, ce camion poubelle que les Tchèques appellent eux donc littéralement camion à cendres. Une
popelnice,
à ne pas confondre avec
popelník,
cendrier, et donc la poubelle extérieure, la grande poubelle dans laquelle on vide la plus petite, celle d'intérieur ou de rue, une petite poubelle que les Tchèques appellent cette fois plus logiquement, compte tenu de la réalité actuelle,
odpadkový koš,
soit littéralement un panier à déchets. On est alors en droit de se demander pourquoi, comme le voudrait la logique, le
popelářský vůz,
le camion à cendres, ne s'est pas non plus transformé en
odpadkový vůz,
ou si vous préférez, camion à déchets.
Yeah.
Et avant de nous quitter, notons encore que le mot tchèque
popelář
n'a pas toujours désigné un poubelleur. Autrefois, jusqu'au 19e siècle environ, la cendre était en effet aussi utilisée dans la fabrication du verre, une activité forte d'une riche et belle tradition en Bohême avec notamment le cristal. À l'époque, le mot
popelář
désignait donc l'employé chargé de la production de cendre qui servait ensuite au travail des verriers. Mais nous reviendrons sur ce mot cendre,
popel,
ses dérivés et les expressions de la langue tchèque qui s'y rattachent dans la prochaine rubrique, dans 15 jours donc. En attendant, portez-vous du mieux possible.
Mějte se co nejlíp.
Portez le soleil en vous.
Mějte slunce v duši.
Salut et à bientôt.
Zatím ahoj. C'était le tchèque du bout de la langue que nous avons eu le plaisir de vous présenter avec Guillaume. Maintenant, on passe à un autre sujet que les poubelles et la cendre. Quels sont les secrets chics d'une vraie parisienne? L'ancien mannequin Inès de la Fressange nous le raconte dans son livre intitulé « La Parisienne ». Il vient de sortir en tchèque. Václav Richter a assisté au lancement du livre.
Rencontre littéraire. Que devient le chic parisien? Ce mot désignait le charme très particulier des parisiennes qui donnait le ton et était imité avec ou sans succès dans le monde entier. Ce charme, ce style exquis, existe-t-il encore? Comment se présente le style caractérisant la parisienne du XXIe siècle? Comment définir ce style? Le livre que ses auteurs Inès de la Fressange et Sophie Gachet ont intitulé « La parisienne » tâche de donner les réponses à ces questions. Grâce aux éditions Knižní klub, le livre est aujourd'hui disponible en traduction tchèque. Petra Distlerová, éditrice de ce manuel qui doit initier les femmes tchèques au mystère du charme parisien, explique les circonstances qui ont abouti à la traduction du livre en tchèque.
J'ai vu ce livre pour la première fois sur le stand de la maison Flammarion à la foire du livre à Francfort. L'éditeur lui-même a été surpris par l'énorme succès de cet ouvrage et par l'attractivité de ce thème pour les femmes. Et quand nous avons vu ce livre, nous nous sommes dit qu'il pourrait intéresser aussi les femmes tchèques, parce qu'il y a beaucoup de tchèques qui aiment la France et Paris, et les idées exprimées dans ce livre pourraient leur plaire beaucoup.
L'auteur de La Parisienne, Inès de la Fressange, est une référence en matière de chic à la française. La fille du marquis André de Seignard de la Fressange est un ancien mannequin devenu styliste, femme d'affaires et journaliste. En 1989, elle a été choisie comme modèle de buste de Marianne, symbole de la nation française dans toutes les mairies. Aujourd'hui, elle est la parisienne modèle, ce qu'elle considère cependant comme très surprenant pour quelqu'un qui, comme elle, je cite, a une mère argentine, une grande-mère colombienne, du sang tchécoslovaque et polonais. Femme d'esprit, elle sait jouer avec les tendances et les snobismes qui influencent l'évolution de la mode. Elle ose même formuler dans son livre les principes fondamentaux qui caractérisent le style actuel de la parisienne, c'est-à-dire de la femme chic. La Parisienne aime découvrir de nouvelles griffes, écrit-elle, surtout si ce sont des marques créatives et abordables. Elle peut se montrer plus fière d'une découverte au supermarché du coin, on trouve des tops chez Monoprix, que d'être la première à posséder le dernier hit-bag de prix, surtout s'il se vend sur liste d'attente, sauf vulgaire. Sa garde-robe se compose habilement de petits prix, de vêtements achetés en voyage et de quelques pièces de luxe. Ce sont donc, selon Inès de la Fressange, la créativité, l'innovation et l'horreur des lieux communs qui caractérisent une vraie Parisienne. Pour composer son image, elle n'a pas besoin de beaucoup d'argent, mais de beaucoup d'indépendance et d'esprit. Elle ne doit pas accepter les choses telles qu'elles lui sont présentées, mais les adapter et les combiner astucieusement selon ses propres critères. Stop au total look. Il faut mélanger, demande Inès de la Fressange. Savoir mixer style et griffe est essentiel. Faire rimer chic et cheap vous fait gagner 100 points au petit jeu. Qui sait à quoi ressemble une Parisienne? Ne pas acheter la blouse qui va avec la jupe dans le même magasin est preuve d'un esprit libre en mode. Le livre d'Inès de la Fressange et de la journaliste Sophie Gachet n'est pas consacré uniquement à la mode vestimentaire, mais les auteurs évoquent aussi le mode de vie de la femme parisienne et donnent des conseils pour la décoration d'appartements, la cuisine, les habitudes de table et les distractions diverses de Paris. Il présente aussi toute une série de boutiques, d'hôtels et de restaurants parisiens. En le lisant, on se demande cependant dans quelle mesure ces préceptes et ces conseils très français peuvent être appliqués dans le milieu tchèque et si les femmes tchèques ont les possibilités et les moyens de tirer les leçons de cet ouvrage. La traductrice tchèque du livre, Alexandra Freisova, ne doute pas de l'utilité des conseils d'Inès de la Fressange pour les femmes tchèques.
Samozřejmě druhá část, která slouží jako průvodce Paříži, je zaměřená na Paříž.
Bien sûr, la deuxième partie du livre, qui est une espèce de guide de Paris, concerne surtout Paris. La partie qui répertorie les boutiques et les magasins parisiens et les magasins sur Internet peut servir donc surtout quand on est à Paris. Cependant, la première moitié du livre, la partie essentielle, qui donne aux femmes des conseils pratiques, comment améliorer leur image, comment se vêtir, comment composer leur garde-robe, comment aménager leur appartement, est utilisable en Tchéquie de la même façon qu'à Paris. Ce sont les conseils fondamentaux qui répondent à la question « comment faire ?» et qui ne dépendent pas du lieu précis où la femme vit.
La comédienne française Chantal Poulain, qui vit depuis des années en Tchéquie, connaît bien la vie et les possibilités des femmes tchèques. Marraine de la version tchèque du livre d'Inès de la Fressange, elle sait apprécier la légèreté et l'humour de cet ouvrage, mais elle estime que les femmes devraient surtout garder leur originalité.
Quand on dit le charme parisien, bon, c'est sympa, mais enfin, il y a le charme des femmes slaves. Les Tchèques sont réputées comme les plus belles femmes d'Europe. Ce que mon fils me dit régulièrement, et c'est vrai, les plus belles. Mais bon, bien sûr qu'il y a plein de petits trucs qui peuvent faire qu'on ne se sent pas obligé de paraître. Il est plus important d'être. Je crois qu'ici, il y a toutes les possibilités. Simplement, il faut savoir combiner les choses. Voilà. Moi, je sais que les femmes aujourd'hui, il y en a plus, on voit les changements parce qu'il y a les possibilités. À l'époque, il n'y en avait pas de possibilités. Donc, c'est aussi une habitude, hein, je veux dire. Puis après, bon, quand on lit certains livres, ou quand on voit certaines subtilités, ou qu'on se laisse conseiller peut-être, mais en gardant soi-même, hein, ne pas tomber dans ce qu'on me dit qu'il faut mettre. Moi, par exemple, j'ai beaucoup d'amis qui sont stylistes, je regarde ce qu'ils se portent, mais moi je porte ce que j'ai envie, et ce que je sens que j'ai envie.
Le livre d'Inès de la Fressange est donc non seulement un manuel de la femme élégante, mais il fait aussi réfléchir sur les sources secrètes et difficilement saisissables de l'élégance et du charme. L'éditrice du livre, Petra Distlerova, estime que c'est aussi une très bonne introduction à la saison printanière.
Je pense que c'est un livre de printemps idéal qui vient au moment où nous quittons les manteaux noirs et aimerions changer et rafraîchir notre garde-robe. Dans le livre, il y a beaucoup de bons conseils, beaucoup d'inspirations qui permettent de raviver le style personnel et de lui donner un peu de cette légèreté et de cette nonchalance parisienne.
Chers auditeurs, c'est par cette rencontre littéraire que s'achève cette émission préparée par la rédaction française de Radio Prague et présentée par Magdalena Hrozinková. Merci de votre attention. À demain. Thank you.
Radio Praga continue.